Les fonds Erasmus permettent à des jeunes Européens d'étudier à l'étranger.
Oui, et ce n'est pas à vous, Alexia, que je vais l'apprendre, car vous êtes une des deux intervenants du reportage que nous allons écouter. Alexia Baron, vous avez accepté avec Brian Orsini de revenir sur cette parenthèse particulière que représente Erasmus dans votre parcours universitaire. C'est une émission en deux parties que nous avons réalisée et dont nous entendrons le premier volet dans un instant. Mon idée au départ est de valoriser ces dispositifs d'échange européens avec des exemples concrets, en l'occurrence un séjour en Espagne pour Brian et en Angleterre pour vous, Alexia. Discussion à bâton rompu donc pour mieux connaître Erasmus. La deuxième partie sera diffusée prochainement sur notre antenne et évidemment tout commence par l'hymne européen. Bonjour à tous. Erasmus et après. Depuis des années, les dispositifs européens se succèdent afin que les jeunes puissent découvrir les autres pays membres. Grenville, Leonardo et aujourd'hui Erasmus+, ils permettent des échanges constructifs dans de bonnes conditions. Découverte, vie en collectivité et études spécifiques, que représentent ces parenthèses européennes quelques années après ? Au cours de deux émissions spéciales, nous allons donner la parole à deux jeunes Français qui ont participé chacun à leur manière au programme Erasmus. Des expériences estudiantines et citoyennes dont ils vont nous parler dans un premier temps, puis ils nous diront ce qu'il leur reste de ces mois passés à l'étranger. Souvenirs, bons ou mauvais, contacts et connaissances, sans bouger de nos chaises, nous allons voyager. Et d'abord, nos deux anciens Erasmus, Alexia et Brian. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alexia, 24 ans, originaire de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, vous avez participé à un programme Erasmus en Angleterre. C'était en 2012-2013. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez choisi Erasmus ?
Eh bien, tout simplement parce que c'était un rêve d'adolescence, disons. Je savais à 12 ans que j'allais vivre en Angleterre, à plus ou moins long terme. Donc j'ai eu l'occasion, grâce à mon université et à ma faculté de sciences politiques à Lyon, de postuler pour une des trois places pour partir donc à Bath en Angleterre. Et c'était en 2012-2013, comme vous le disiez.
Vous connaissiez déjà l'Angleterre ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une famille suffisamment curieuse de l'étranger et surtout attachée à l'Angleterre pour pouvoir y passer quelques voyages auparavant, notamment ma sœur qui a déjà vécu 2 ans et demi. Donc c'est une histoire familiale avec l'Angleterre.
C'est une belle histoire en même temps. Et vous avez passé 9 mois là-bas en Angleterre ?
Tout à fait, en fait l'équivalent d'une année universitaire, donc 9 mois, oui.
Quel était le programme de vos études là-haut ?
Alors, le gros avantage, donc j'ai fait ce qu'on appelle un master 1, donc une première année de master sciences politiques, mais je n'ai pas pu suivre, puisque les accords avec les facultés anglaises sont de suivre des cours de undergrad, donc de licence. Donc en fait, j'ai pu suivre des cours à la carte. Donc j'ai principalement suivi des cours de relations internationales, d'histoire politique, donc tout ce qui est autour de la guerre froide notamment. C'était très très intéressant d'avoir un autre angle que l'angle français sur les affaires courantes et les affaires plus anciennes. Il y avait également de la psychologie, c'est là où je me suis formée un petit peu en psychologie, notamment psychologie développementale et psychologie plus générale. Donc.
Ça vous a été utile en termes d'enseignement universitaire ?
Oui, tout à fait, puisque par la suite j'ai poursuivi un master en criminologie. Et la psychologie est un énorme point, un énorme chapitre dans la criminologie. Ça m'a permis de mieux comprendre certains sujets par la suite dans mes études.
Quand vous vous êtes dit, je vais partir 9 mois en Angleterre, donc je vais couper les ponts avec ma famille, avec mes amis, avec mon pays, il a fallu quand même nourrir pas mal de motivation.
Oui, bah déjà, je ne me suis pas décidée du jour au lendemain. Comme je le disais, c'était un projet que j'avais mûrement réfléchi. Alors, je me suis préparée déjà en m'éloignant de ma famille de par l'université, puisque j'ai fait, comme je le disais, mon université à Lyon, donc à plus de 300 km de chez moi. Et surtout, je me suis préparée en rêvant beaucoup à l'Angleterre, parce que c'était quelque chose qui me passionnait énormément. Mais après, c'est vrai que j'y croyais pas vraiment, en fait, à mon dossier, puisque j'avais fait ça un peu en rigolant. J'avais mis des blagues dans mon dossier. Et ça a marché. J'étais tellement drôle, je pense qu'il n'y a pas...
C'est un dossier qui est difficile à rédiger quand on est étudiant. Non,
honnêtement, c'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Il faut se motiver, c'est-à-dire il faut écrire une lettre de motivation en anglais et en français. Dans mon cas, je pense que pour toi, ça a été plutôt en espagnol. Mais donc c'est simplement ça. Donc je crois que ça m'a pris une soirée pour le rendre le lendemain. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué.
On va reparler avec vous de votre vie quotidienne en Angleterre dans un instant. Je me tourne vers Brian. Brian, vous avez 27 ans, vous êtes originaire de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Erasmus, pour vous, c'était l'Espagne en 2007-2008. Pourquoi Barcelone et pourquoi Erasmus ?
Alors, moi, j'ai suivi un parcours de langue étrangère appliquée, donc à l'université d'Aix-en-Provence, à la fac de lettres. Et c'est vrai qu'en termes de langue étrangère, on dit toujours que le meilleur moyen d'apprendre les langues étrangères, c'est de l'apprendre à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, le programme Erasmus s'est un petit peu imposé de lui-même. Et puis Barcelone, pourquoi ? Parce que j'ai étudié l'anglais et l'espagnol, et c'est vrai que l'espagnol était quand même la langue dans laquelle j'avais le plus besoin de progresser, donc d'où le choix de l'Espagne. Et Barcelone, parce que c'est, je pense, l'une des villes les plus cosmopolites au monde, l'une des villes dans lesquelles on rêve d'aller, que ce soit en vacances, que ce soit pour y travailler. Alors, pour y habiter, c'était quelque chose qui était encore plus magique à mes yeux, et quand j'ai eu cette opportunité de partir à Barcelone, je l'ai saisi instantanément.
Vous aviez vu l'auberge espagnole de Cédric Claspiche ?
Justement, je l'ai vu après mon séjour Erasmus. Je voulais pas voir le film avant, parce que justement, ça se passe à Barcelone, parce que justement, je savais que j'allais y voir des choses que j'allais vivre par la suite, et je me suis forcé à ne pas le regarder avant de partir. Je l'ai vu en revenant, et c'est vrai que j'y ai vu des similitudes énormes avec ce que j'avais vécu pendant quelques mois en Espagne.
On va certainement en reparler. Vous étiez motivé quand vous avez déposé votre dossier. Comment vous avez nourri cette motivation ?
Bah, le fait de vivre à l'étranger pendant 6 mois, déjà en lui-même, c'est vraiment une motivation qui est quelque chose qui est énorme, d'autant plus quand on étudie les langues, parce que comme je le disais tout à l'heure, étudier les langues, il n'y a rien de mieux que de l'apprendre à l'étranger, in situ, dans le pays dans lequel on va vivre. Et c'est vrai que la motivation d'un séjour Erasmus, ne serait-ce que le nom Erasmus nous donne déjà la motivation avec toute l'histoire de ce programme, avec tout ce qu'on peut y vivre, avec tout ce qu'on en entend, ça donne envie de le vivre, donc la motivation vient toute seule à partir de là.
La vie à l'étranger également, avec un rythme différent en Espagne, forcément.
Tout à fait, un rythme qui est plus tardif, puisque les Espagnols, on les surnomme les chats, et c'est pas pour rien, parce qu'ils vivent plutôt la nuit, donc avec un vrai décalage par rapport à ce qu'on voit en France. J'écoutais ce que disait Alexia tout à l'heure par rapport à l'Angleterre, où je pense que c'est un petit peu plus en amont, les Anglais vivent un peu plus tôt, les Espagnols vivent plus tard, donc un vrai décalage, mais finalement c'est un pays qui est latin, donc qui a un petit peu les mêmes modes de fonctionnement que dans le sud de la France, donc on n'est pas tant dépaysé que cela, et on se fait très rapidement au rythme espagnol.
La nourriture ?
Très bonne, les tapas, la cerveza, donc forcément pas trop dépaysé non plus par la nourriture.
Alors je vais poser la même question à Alexia, ça risque d'être différent la réponse. La nourriture anglaise, Alexia ?
Excellente
quand même.
En particulier pour moi qui suis très gourmande, les pâtisseries en Angleterre, c'est de la tuerie. Et j'aime pas la bière, mais le cider en Angleterre est excellent, voilà.
Pour ce qui est de la vie quotidienne en Angleterre, quand on est une jeune étudiante qui a vécu en France et qu'on débarque à Bath, grande patrie du rugby en plus, comment ça se passe au quotidien ?
Déjà, on apprend à faire la queue. Les gens sont beaucoup plus disciplinés en Angleterre qu'en France. Donc, en tant que petits Français qui avons l'habitude du brouhaha, etc., bah, tous les Français, on s'en dit « Oula, ça se passe pas pareil, il faut faire la queue pour aller dans le bus, on peut pas se précipiter ». Donc c'est sûr que c'était assez différent de s'adapter, mais je trouve, ça il faut bien le souligner, en tout cas à BAF, dans mon université, le soutien aux Erasmus a été très important, ils ont extrêmement bien encadré les étudiants, et les étudiants pas seulement Erasmus, puisqu'il y avait également des étudiants hors Europe, comme les Indiens ou même les Colombiens, qui ont été extrêmement bien accueillis par l'université de Bath.
Une forte colonie d'ailleurs de l'ancien empire britannique.
Oui, et d'ailleurs ça se voit puisqu'il y a énormément d'Indiens, enfin d'étudiants venant d'Inde qui viennent profiter de cette éducation pour découvrir également une autre partie du monde et accéder à une formation un petit peu plus poussée dans certains domaines.
Pour ce qui est de l'expression orale et de tout ce qui concerne la langue, pas de difficulté ?
Alors, je partais avec un petit peu d'avantage puisque je m'exprimais déjà très correctement en anglais, mais on ne se prépare jamais à l'anglais des rues totalement, je dirais. C'est-à-dire qu'on vous parle un anglais extrêmement épuré en classe, très british au final, bien qu'il y ait des fois il y ait des accents un petit peu redoutables parmi les profs, mais voilà. Par contre, dans la rue, c'est pas la même chose. J'ai entendu des filles, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre que c'était de l'anglais. Parce qu'elles ont des accents. Bon, à Bath, c'est quand même assez. Faut s'imaginer que c'est l'équivalent d'Aix-en-Provence, donc c'est quand même assez bourgeois. Donc c'est pas non plus l'accent cockney, mais c'est quand même un fort accent qui diffère de ce qu'on apprend en cours.
Vous avez aussi fait des découvertes au niveau de la musique ?
Ah oui, énormément. J'ai redécouvert des choses, bizarrement, puisque les soirées en Angleterre, il y a des soirées toutes les semaines pour revivre les vieux tubes, ce qui fait qu'on redécouvre les Spice Girls et compagnie, puisqu'en fait, j'avais jamais fait attention aux paroles, donc c'est formidable de pouvoir les réécouter en dansant dessus comme des dindons. Et aussi des choses beaucoup plus modernes, comme la pop anglaise, que j'aimais déjà beaucoup et qui, ça s'est encore amélioré, disons, augmenté avec mon séjour.
Et vous allez nous faire profiter de vos découvertes. Un groupe que vous avez découvert pendant votre...
C'est pas un groupe, c'est un chanteur. Il s'appelle Labyrinth et il chante Express Yourself. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en Angleterre. C'est qu'il y a cette liberté de parole et d'expression dans l'habillement, dans l'expression de soi qui n'est pas toujours là en France.
Et on se retrouve tout de suite après la musique. Say the same thing twice, I'm awkward when I speak. Ain't got the perfect smile, don't turn heads on my street. Trying to be a superstar like everybody else. But being myself is something I do well, whatever you do. Come on, I'll do it, yeah. See, it's not.
Retour en plateau. Après l'Angleterre, on va se retourner et repartir en Espagne. Brian, comment s'est passée votre année universitaire et vos études à Barcelone ?
Alors, il faut savoir qu'à Barcelone, il y a pas une problématique, mais une particularité, j'ai envie de dire, c'est celle du catalan. Parce qu'effectivement, Barcelone, une forte identité catalane, avec toutes les questions d'autonomie qui sont revenues ces dernières années notamment. Donc, la particularité des universités à Barcelone, il y en a deux très grandes universités. L'Université de Barcelone, l'Université autonome de Barcelone, dans laquelle j'ai suivi mon cursus universitaire, sont des universités dans lesquelles les cours sont dispensés dans les deux langues, à la fois en catalan et en espagnol. Et c'est vrai que les premiers temps, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a certains professeurs qui sont un petit peu récalcitrants. Alors, vous parliez tout à l'heure, François, du film L'Auberge espagnole. Dans ce film, Romain Duris raconte une expérience dans laquelle il suit des cours en catalan. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, à savoir donc, mon tout premier cours de communication, dans lequel le professeur s'est exprimé en catalan, malgré la présence de 40 élèves Erasmus, en expliquant qu'ici on était à Barcelone, que la langue officielle était le catalan, et que ceux qui ne voulaient pas suivre le cours en catalan pouvaient quitter la pièce. Donc c'est quelque chose qui...
C'est ce qui risque de nous arriver avec la Corse.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Il faudra faire attention.
Je vous laisse mettre de vos mots. Ce qui est certain, c'est que voilà, il faut un petit temps d'adaptation quand même pour s'adapter aux gens qui parlent un petit peu
catalan. Il y a des similitudes entre l'espagnol et le catalan.
C'est très ressemblant, d'autant plus pour nous qui sommes provençaux, j'ai envie de dire, et qui pouvons être habitués un petit peu à la langue d'oc notamment, et à la langue de Frédéric Mistral. Le catalan, c'est compréhensible. C'est difficile à parler, mais c'est en tout cas très compréhensible. Donc, pas tant de difficultés et beaucoup de similitudes avec l'espagnol.
Quand on est immergé comme ça, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, quand on est immergé dans un pays étranger et qu'on suit des cours et toute la journée on parle dans une langue étrangère, on rêve aussi en anglais ou en espagnol ?
Personnellement, ça m'est arrivé.
Oui, alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même une sorte de communautarisme. Je pense que tu l'as vécu également, parce que c'est commun à beaucoup d'Erasmus. On vit en Angleterre, on évolue avec des Anglais, mais on reste, c'est fou parce qu'on se rapproche de la maison au final et on se raccroche aux autres Français. Donc ouais. On se retrouve avec...
Il y a un sentiment de patriotisme en fait qui naît et qu'on ressent pas. Alors c'est des questions qui sont un petit peu plus existentielles, notamment au regard de tout ce qui s'est passé ces derniers temps en France. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de patriotisme, ce sentiment d'être fier d'être Français finalement et de se retrouver entre Français et de se rappeler les bons souvenirs et tout ce qui fait la fierté de la France. Quoi.
Ben, pour l'Angleterre en tout cas, ne serait-ce que manger ensemble. Ça c'est quelque chose qu'on voit pas en Angleterre, enfin rarement. Surtout le midi, donc pouvoir partager un repas entre Français, c'était sympa.
Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien ou c'est pas bien de se retrouver comme ça entre Français à l'étranger ?
Disons que ça a ses bons côtés, effectivement, parce que ça nous permet de pas être trop dépaysés de la maison, ça permet d'évoluer dans un contexte un petit peu plus favorable. En revanche, après, pour l'apprentissage de la langue, évidemment, il vaut mieux arriver à se retrouver avec des personnes plutôt natives du pays là où l'on est pour mieux apprendre la langue. En tout cas, c'est comme ça qu'en Espagne, je l'ai ressenti.
Moi, je me suis sentie un peu coupable au début d'évoluer avec autant de Français. Je me suis dit, oh là là, t'es pas venu... Enfin, t'as pas eu la chance de partir en Erasmus pour rester avec des Français. Mais c'est vrai que l'Erasmus se prête à ce communautarisme et à ce patriotisme, comme tu disais. Donc c'est important aussi de faire l'effort de sortir un petit peu de ce cercle-là. Moi, je l'ai fait en rejoignant le club de handball de ma faculté, enfin de mon université, ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes et aussi grâce à mes colocataires qui n'étaient absolument pas français. Et ça, je pense que c'est important.
Exactement.
Dans les colocataires, ne pas prendre de français. Exactement. Ça, c'est un bon conseil.
Alors, premier conseil déjà de nos amis Erasmus. Une question importante aussi. Erasmus, ce n'est pas uniquement la France, l'Espagne et l'Angleterre. Vous avez certainement croisé des amis allemands, autrichiens, polonais. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Alors des gens se moquent, parce que, notamment, pardon, mais les Espagnols et les Italiens, et les Grecs aussi, en anglais, c'est hilarant. Alors, par contre, on se rhabille très vite en Angleterre, puisque personne ne se moque. Donc on apprend, ça aussi, c'est une leçon, on se moque
pas. On apprend le respect.
Voilà. Mais c'est génial, puisque moi, je ne sais pas si en Espagne c'est le cas, mais j'ai rencontré des Norvégiennes, beaucoup de Norvégiennes, et c'était formidable, parce que ça permet, c'est vrai que c'est des cultures que moi je ne connaissais pas du tout, et c'est des gens extraordinaires.
C'est la beauté de ce programme finalement, qui te permet de rencontrer des gens qui viennent de cultures complètement différentes, de pays complètement différents, et finalement réunis autour d'une même chose, déjà la langue, que ce soit l'anglais ou même en Espagne, on parlait quand même relativement bien anglais aussi avec d'autres personnes, mais voilà, c'est le seul... on a l'impression d'un pays, en fait, dans lequel on se retrouve, d'un monde complètement différent, dans lequel on se retrouve et dans lequel on peut discuter, découvrir d'autres personnes, découvrir leur culture, découvrir leur façon de faire, et c'est juste quelque chose de magique.
Est-ce que vous essayez de découvrir et de mieux connaître, par exemple, la Suède ou l'Italie quand vous êtes en Espagne ou en Angleterre ?
De fait, on la découvre. Il suffit de discuter avec les personnes qui viennent de ces pays et on a l'impression d'être rapidement transporté dans ce pays et de mieux connaître ce pays. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir un colocataire italien et j'ai été une seule fois dans ma vie en Italie. Et ben, j'ai l'impression de connaître, il était de Milan, j'ai l'impression de connaître les rues de Milan par cœur, j'ai l'impression d'avoir été à San Siro, au stade de foot avec lui, de par ce qu'il a pu me raconter. Et voilà, c'est la chose qui est magique avec Erasmus, c'est ce côté échange et ce côté partage.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais j'ai un peu vécu la même chose avec mes colocataires qui étaient grecs et une qui était nigérienne. Et c'est sûr que culturellement parlant, dès qu'on commence à échanger, c'est hyper intéressant puisqu'on se rend compte que on est différents, mais en même temps, il y a des préoccupations qui sont communes à tous.
Je suppose que Erasmus est relativement confortable au niveau hébergement, au niveau études, et puis on a une vie très légère. On faisait allusion tout à l'heure au film de Clapiche. Vous avez vécu quand même des moments difficiles tous les deux ?
Oui.
Ah oui, moi j'ai bêtement j'ai cru perdre mon porte-monnaie, mon portefeuille. Ça a été une
avec
sacrée angoisse.
Avec tous les papiers d'identité, voilà, par exemple.
Ça, c'est une angoisse. Parce qu'on se dit, j'ai plus rien, plus de carte bleue, plus de pièces d'identité. S'il m'arrive quelque chose, il n'y a pas papa et maman qui peuvent venir m'aider. Et ça, c'est terrifiant.
Ça a été encore plus compliqué, puisque j'ai eu la malchance d'être victime du trafic à Barcelone, à savoir que j'ai eu un petit accident de voiture là-bas, sans gravité. Mais ça apprend aussi à prendre attache avec la police qui vient chercher la voiture, à prendre attache avec toutes les formalités administratives qu'il faut faire là-bas sur place dans une langue étrangère. Et c'est vrai que, comme le disait Alexia, il n'y a pas papa maman à côté pour nous aider. On est quand même relativement jeune et ça apprend, mais ça apprend, c'est une école de la vie finalement. Ça apprend à se débrouiller soi-même et ça apprend à grandir tout simplement.
Ce que vous dites, ça veut dire que Erasmus ferait partie d'un parcours initiatique dans la vie des citoyens européens ?
En tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire à la fois dans un cursus universitaire, mais aussi dans une démarche de vie personnelle, parce qu'effectivement, c'est l'une des meilleures manières d'être confronté à la réalité des choses sans justement, je reviens sur ce que disait Alexia, sans avoir papa-maman derrière pour nous aider et pour nous prendre par la main et nous dire là, il faut faire telle démarche ou là, il faut aller voir telle personne.
Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nécessaire parce que malheureusement, Erasmus, ce n'est pas accessible à tous. C'est bien le hic, souvent dans bien des cas. Mais c'est une expérience extrêmement formatrice et sur le plan humain, sur le plan de soi-même, parce qu'on apprend vraiment à se faire confiance et aussi à connaître ses défauts, les petits problèmes qu'on connaît dans le quotidien. Donc, c'est vraiment une expérience importante que je conseille à la majorité de personnes de suivre, mais malheureusement... bien sûr, ça s'est ouvert grâce à Erasmus+, mais c'est pas forcément nécessaire. Je rebondis juste sur ça parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas y accéder.
Et si vous aviez des critiques particulières à adopter pour à signaler pour ce programme ?
Je pense que simplement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est vrai que les universités font en sorte que les étudiants se mélangent entre Erasmus. C'est plus compliqué pour les étudiants normaux, entre guillemets, de se mélanger avec les Erasmus. Je l'ai vécu également en France avec les arrivants. C'est pas par mauvaise volonté, c'est sûr que les gens se croisent peu, en fait.
Entièrement d'accord. On a tendance à beaucoup se réunir entre Erasmus ou entre gens du même pays, mais pas forcément à se mélanger avec les locaux, si ce n'est par des colocataires. Mais c'est vrai qu'il faudrait arriver peut-être à plus faire en sorte que les gens se mélangent, et je pense que ça apporterait justement aux deux parties. D'une part, aux Erasmus qui viennent dans un pays pour pouvoir mieux progresser dans la langue, mieux s'intégrer à la culture, et d'autre part, pour ceux qui, comme le disait Alexia, n'ont pas la chance de partir, n'ont pas l'opportunité de partir, peut-être justement de vivre ce petit bout de voyage et d'arriver à découvrir d'autres cultures de par la rencontre qu'ils vont avoir avec les Erasmus qui viennent dans leurs universités.
Merci Brian, merci Alexia de nous avoir fait partager cette belle expérience liée à Erasmus. On vous retrouve dans quelques temps pour parler de l'après-Erasmus. Et merci aussi à Camille qui a assuré la régie de son côté.